France Culture.
Question du soir, Quentin l'a fait.
Le 6 février dernier, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle restriction du droit du sol à Mayotte, déjà durcie en 2018. Une loi proposée par les Républicains et soutenue par le gouvernement, mais qui est aussi centrale dans le programme du Rassemblement national, supprimer le droit du sol sur l'ensemble du territoire français. Pourtant, le droit du sol et l'intégration des étrangers est une donnée importante de la construction nationale française qui semblait profiter d'un certain consensus entre la gauche et la droite. Alors comment comprendre ce consensus? Quelle est l'histoire du droit du sol dans notre pays? Pour en parler, un invité ce soir, Patrick Weil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et politologue, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de Liège. Vous êtes l'auteur notamment de « La laïcité en France » qui a paru chez Grasset en 2021 et de cet ouvrage paru en 2002. Ça date, mais c'est toujours d'actualité. Et il est intitulé « Qu'est-ce qu'un Français ? Une histoire de la nationalité française depuis la Révolution ». Un ouvrage encore disponible en poche chez Folio Gallimard. Merci d'être ce soir à Question du soir.
Le Conseil constitutionnel lui-même, en 2018, compte tenu de la situation particulière à Mayotte, a reconnu qu'il était possible, évidemment, de restreindre le droit du sol à Mayotte. Nous poussons ici au maximum des possibilités de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel pour arriver à quelque chose qui nous paraît réaliste. Vous êtes nombreux à contester la situation sans la connaître. Vous n'êtes jamais allé sur place.
Lorsque vous faites une restriction du droit de sol à Mayotte, c'est toute la République que vous mettez en danger. Et je vous préviens, monsieur, vous ne devriez pas jouer aux apprentis sorciers sur les principes fondamentaux de notre République. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui fonde ce que nous sommes. Et sans le droit du sol, monsieur Darmanin, il n'y aurait pas de député ici qui s'appelle monsieur Ciotti. Il n'y aurait pas de député qui s'appelle monsieur Jacobelli. Il n'y aurait pas de député qui s'appelle madame Mouchetou. Il n'y aurait pas de député qui s'appelle Djenaba Diop. Et nous sommes toutes et tous des enfants de la République.
La voix de deux députés qui s'exprimaient le 7 février 2025 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Philippe Gosselin au début, Djenaba Diop, c'est le dernier son que l'on vient d'entendre. Patrick Weil, est-ce que pour vous, cette approche de Mayotte et du droit du sol qui l'entoure est une dérogation, une rupture dans la République ?
Ce n'est pas ce que le Conseil constitutionnel a jugé. Il a considéré que, eu égard à la situation particulière d'un département d'outre-mer, il y avait la possibilité de restreindre légèrement, c'est-à-dire d'imposer une condition de résidence légale à des parents étrangers lorsque leurs enfants vont, bien longtemps après leur naissance, pouvoir devenir français. Parce que la première chose qu'il faut dire, c'est que on dit droit du sol, et beaucoup de Français pensent que ça veut dire qu'un enfant naît en France, il est français. Ce n'est pas le cas. On n'est pas aux États-Unis. Si on est né en France de deux parents étrangers non nés en France, il faut au moins attendre l'âge de 13 ans, avoir été scolarisé au moins 5 ans, donc avoir été éduqué en France, parler le français, être quasiment français du point de vue de la culture, pour pouvoir réclamer la qualité de français.
C'est ce qu'on appelle notamment la notion de double droit du sol, mais je reste...
Non,
alors dites-moi.
Non.
Le double droit du sol, c'est...
Le sol,
quand même...
ça va concerner la génération suivante. Là, on parle des enfants nés de parents immigrés. Quand il s'agit de petits-enfants, lorsque vous avez un enfant né en France d'un parent déjà né en France, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol, qui a été instauré en 1889. Eh bien là, c'est à la naissance, mais après donc au moment de la troisième génération, que la nationalité est automatique. Mais j'ajoute un point très important. La plupart des Français sont français à la fois parce qu'ils sont nés d'un parent français, d'une mère ou d'un père français, et parce que ils sont nés en France. Souvent aussi d'un parent né en France. Quand ils veulent prouver leur nationalité, comment ils le font? Le plus souvent par le droit du sol, parce que c'est ce qui est le plus facile. Un acte de naissance qui montre que vous êtes né en France, d'un parent dans lequel il est écrit sur l'acte de naissance, qui est aussi né en France, et hop, vous avez votre preuve de nationalité. Si vous êtes né à l'étranger, ou si vos parents sont à l'étranger, ça devient plus compliqué.
Vous avez bien fait de rectifier, donc, Patrick Veil. Tout de même, je reste un instant sur Mayotte. Est-ce que la situation différente qui est en train d'être dessinée du point de vue du droit du sol se justifie, selon vous, selon le Conseil constitutionnel également, parce que la situation migratoire à Mayotte est différente? Est-ce que c'est la situation qui l'impose?
Écoutez, il faut distinguer la réalité des faits et la perception que les compatriotes peuvent avoir. Je connais des hauts fonctionnaires qui ont été 20 fois à Mayotte et qui ont constaté que les gens qui habitent là-bas ont constaté que les gens qui migrent vers Mayotte, par exemple des femmes en voie d'accoucher, vont accoucher pour que leur enfant accouche dans de bonnes conditions, qu'ensuite il soit élevé dans des écoles meilleures qu'en Comores ou d'autres pays africains. Donc c'est ça qui les guide, c'est pas d'acquérir la nationalité française qui ne peut pas être acquise avant au moins 13 ans de séjour. Donc, il y a une situation migratoire très particulière et qui est vraie, qui n'est pas contrôlée par les pouvoirs publics. Et alors, les élus de Mayotte et une partie de la population considèrent que il y a une attractivité d'un droit du sol qui est quand même très conditionnel. Mmh. Voilà ce qu'a voulu prendre en compte le Parlement, c'est la perception, l'anxiété des élus de Mayotte, mais le Conseil constitutionnel a bien mis des limites à cette correction de la loi nationale, parce qu'on a quand même affaire à un département français, et la France est une république une et indivisible.
Je voudrais, Patrick Veil, qu'on tente de faire avec vous l'histoire de ce droit du sol dans le temps qui nous est imparti. À quand remonte en France cette notion-là? Originellement, parfois certains évoquent la date de 1515. Pourquoi cette date-là?
Parce que c'était devant des tribunaux de l'Ancien Régime que se décidait le droit de la qualité de Français. Pourquoi? Parce que seul un Français avait le droit d'hériter sur le territoire royal. Donc, si vous n'étiez pas considéré comme français, vous pouviez pas hériter si vous, c'est votre père, avait une grande fortune. Donc, avant 1515, il fallait être né d'un père français sur le sol de France et s'engager à résider sur le territoire du royaume. À partir de 1515, la question de l'origine n'est plus nécessaire. Si vous êtes né sur le sol de France de parents étrangers et que vous vous engagez comme signe d'allégeance au roi à résider sur le territoire du royaume, vous êtes considéré par le Parlement de Paris, c'est-à-dire le tribunal suprême de la région de Paris, comme français. Et donc 1515, c'est vraiment l'affirmation d'un droit du sol indépendant des autres conditions.
Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue avec la Révolution française en 1789? Pour la première fois, dites-vous, le français est défini. Qu'est-ce que cela signifie?
Ça veut dire que là, ce que je viens de vous dire, c'est de la jurisprudence. C'est des décisions de tribunaux. Bon, tout d'un coup, la qualité de français va être définie dans les constitutions révolutionnaires. Alors, on va y rajouter la filiation, parce qu'elle avait été aussi rajoutée comme condition indépendante, à condition qu'on réside sur le territoire du royaume. Et puis, ça va être les constitutions révolutionnaires jusqu'au code civil. Parce que le code civil marque une très grande rupture, sous l'influence d'un grand juriste qui s'appelle François Tronchet. La France va inventer la filiation comme mode principal d'attribution à la naissance de la qualité de national. Va dorénavant, à partir de 1803, un an avant la promulgation du Code général, l'enfant né d'un père français en France ou à l'étranger est français. Mais on garde un morceau de droit du sol, parce que celui qui est né en France de parents étrangers peut, à la majorité, réclamer la qualité de français. Et puis, comme on devient un pays d'immigration, et que ces jeunes qui sont nés de parents étrangers ne réclament pas la qualité de français à la majorité comme ils le peuvent, parce que ça voudrait dire faire l'armée, et qu'à l'époque, faire l'armée, c'est 3 à 6 ans, on risque de mourir, donc ils échappent. Et donc, les députés des régions où il y a des immigrés, comme qui viennent de Belgique ou d'Italie, ils disent, il faut que nos enfants soit. Il ne faut pas que ces jeunes d'origine étrangère aient des privilèges, parce qu'ils sortaient de l'école, ils allaient prendre des places dans les usines, ils épousaient les plus jolies filles du village, c'est ce que dit un député, et pendant ce temps-là, les garçons français partaient à l'armée. Et après, quand ils revenaient de l'armée, ils travaillaient sous les ordres de leurs anciens camarades de classe, qui avaient fait déjà 4 ans dans l'entreprise, ou 5 ans. Donc, on établit en 1889 l'obligation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le double droit du sol, pour que tout le monde soit égaux devant les charges de l'armée. Voilà, c'est ça qui s'impose en 1889. Et à partir de 1927, où là on a besoin de faire beaucoup de Français après toutes les pertes qu'on a eues pendant la Première Guerre mondiale, on va élargir la naturalisation, on va libérer la femme qui était... Vous savez, les femmes à l'époque, avant jusqu'en 27, à partir du Code civil jusqu'en 27, elles prenaient la nationalité du mari. Donc par exemple, je vous donne un exemple... Une institutrice française, une postière, tombée amoureuse d'un Italien, elle l'épousait, et on lui disait, bah, madame, vous avez perdu votre emploi, parce que vous êtes italienne, maintenant, vous pouvez plus rester à la poste, et puis vous avez perdu le droit de divorcer, parce que l'Italie ne reconnaît plus, ne connaît pas le divorce. Donc, il y avait des situations, il y avait des dizaines de milliers de femmes, qui étaient nées en France, qui étaient françaises, qui parlaient pas la langue de leur mari, du pays de leur mari, et qui étaient un peu enfermées dans la nationalité de leur mari. Et ça, c'est la loi de 27 qui les libère.
Cette tendance, Patrick Vell, que vous dessinez au long cours, hein, notamment au 19e siècle, est-ce que la France est suivie dans ses initiatives, dans la façon qu'elle a de dessiner son modèle migratoire, ou bien, parce que la France est un pays d'immigration, il y a une exception française qui se joue là?
Alors, c'est une question très intéressante et je vais essayer de répondre précisément. Le Code civil va influencer énormément de pays au monde et toute une grande partie des pays européens, l'Asie, une grande partie de l'Afrique plus tard. Et donc, ça va être la filiation qui va être copiée comme mécanisme d'attribution de la qualité de national dans la plupart des pays du monde. Sauf les pays d'influence britannique, donc le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal... le Canada, l'Australie, et puis les États-Unis, qui ont le droit du sol automatique, parce qu'ils ont gardé, ils ont pas copié le Code civil français. Alors la particularité de la France, c'est qu'on a créé la filiation, et puis on est devenu un pays d'immigration, donc on a remis plus de droits du sol. Mais un droit du sol qui était différent de l'Ancien Régime, parce que dans l'Ancien Régime, je vous le rappelle, il fallait être résident pour l'avenir comme signe d'allégeance au roi. Avec le droit du sol de la République, on constate l'assimilation, le fait que les enfants sont éduqués par l'école, et donc on va dire, ils sont éduqués par l'école française, ils sont français. Donc c'est une sorte de droit du sol constatant l'intégration. C'est ça qui se fait avec la République. Et ça c'est stable, c'est tellement stable depuis 1889 que le régime de Vichy refuse, quand ils font leur projet de loi de restriction de la loi de 27, qui était pour eux trop libérale, ils ne mettent pas en cause le droit du sol, ce qui fait que leur projet de loi fait l'objet d'un veto du gouvernement nazi à Berlin.
Il faut nous expliquer dans cette continuité, par ailleurs, hein, en quoi la libération est aussi un moment de débat intense, hein, concernant le droit du sol. On connaît peut-être moins cette histoire-là. Racontez-la nous, Patrick Vell.
Alors, c'est un débat plus sur la naturalisation que sur le droit du sol auquel on ne touche pas. Justement, on n'y touche pas vraiment. C'est-à-dire, je rappelle, 3e génération, double droit du sol, vous êtes français, irrémédiablement dès la naissance. 2e génération, alors vous pouvez devenir français à la majorité, ça date du Code civil, mais il y avait eu un mécanisme qui disait, depuis 1889, vos parents peuvent vous déclarer français en avance de cette majorité. Mmh. Et beaucoup d'enfants, par exemple, juifs français qui vont être déportés dans les camps de la mort pendant la guerre, sont français parce que leurs parents les ont déclarés français dans les mois ou les années qui ont suivi leur naissance. Alors ça reste là, en 45. Ce qui est discuté, c'est, est-ce qu'il ne faut pas faire une sélection par l'origine, aussi bien pour les immigrés que pour les naturalisés. Et il y a une grande influence à l'époque des règles américaines qui avaient installé des quotas par origine. Et les conseillers du général de Gaulle, les démographes qui le conseillent, veulent qu'on privilégie les Nordiques de l'Europe, et puis des Latins du Nord, c'est-à-dire des Espagnols, des Italiens, des Portugais du Nord de leur pays, et puis enfin quelques Slaves, mais pas les autres. Et là, vous avez aussi autour de Gaulle des gens qui ont été dans la résistance, et qui disent, nous, on peut pas accepter ça. C'est raciste. Et puis nous, si on a des critères, on va commencer par prendre ceux qui ont été engagés dans la résistance. Et de Gaulle accepte leur point de vue, et les ordonnances de 45 qui vont être publiées sous signées du général de Gaulle ne mettront aucun système de quotas par origine en place, comme le souhaitaient pourtant certains démographes de l'époque.
J'en reviens au droit du sol et aux décennies qui suivent. Comment, dans cette seconde moitié du XXe siècle, se forge un consensus transpartisan français autour justement de cette notion du droit du sol, un consensus qui va toucher les bancs de l'Assemblée nationale, ceux du Sénat, sur le camp de gauche comme celui de droite?
Alors, vous allez vite, parce que vous allez vite en besogne, parce qu'avant qu'il y ait le consensus, il y a eu la grande divergence. En fait, il y a une tentative. Valéry Giscard d'Estaing, en 91, fait une grande interview dans le Figaro magazine où il propose la suppression du droit du sol. Et puis, ça, c'est dans la lignée d'une proposition de loi qui avait été faite par le RPR, ou il s'appelait comme ça, je crois, de Jacques Chirac, qui gagne les élections de 1986 avec sur la plateforme la suppression du droit du sol. Mais Jacques Chirac devient chef du gouvernement, c'est Albin Chalandon qui est son ministre de la Justice, et il se met au travail pour faire un projet de loi, et là il se rend compte que si on met en cause le droit du sol, ça déstabilise la preuve de la nationalité française pour 90% des Français. Et il faudra mettre en place des registres de la nationalité avec les origines, il faudra créer des milliers de postes de fonctionnaires pour faire des preuves de la nationalité avec des mécanismes qui n'existent pas du tout dans notre traduction. Et du coup, Jacques Chirac, dans le projet de loi qu'il présente au nom du gouvernement, ne propose pas la suppression du double droit du sol. En revanche, il veut restreindre les autres mécanismes pour la génération, je dirais la première génération née en France. Et là, vous avez des manifestations contre la loi de Vaquet, la mort de Malik Oussekine. Le gouvernement suspend le débat sur la réforme du droit du sol et crée une commission sous la présidence de Marsolon, vice-président du Conseil d'État, qui va proposer une réforme plus équilibrée. Et cette réforme va être votée sous le nom de loi Méhaignerie en 1993. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette réforme? Alors d'abord, elle supprime le mécanisme qui permettait aux parents de déclarer leur enfant né en France tout de suite après leur naissance, français, avant qu'ils atteignent un âge de raison, si vous voulez. Et ensuite, ils disent il faut qu'il y ait une manifestation de volonté pour cette génération juste née en France, entre 16 et 21 ans. Et c'est cette loi qui va être en place jusqu'en 1998, où là, après l'examen des conséquences de la loi de 93, le Parlement se rend compte que y a beaucoup de jeunes qui savent même pas. Vous savez, beaucoup de Français qui nous écoutent, c'est un peu confus, que c'est que le droit du sol, pour eux, il y a des jeunes, ils se disent, je suis français, je suis né en France. Ah, paf, ils découvrent, quand ils vont chercher leur carte d'identité, qu'ils ne sont pas français. Donc, il y a des problèmes d'information. Donc, la loi de 98, qui est toujours en vigueur, permet la manifestation de volonté, ce que voulait Marsolon, à partir de l'âge de 13 ans, jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, vous êtes automatiquement français si vous avez vos 5 ans de scolarité, sauf si vous déclarez que vous voulez pas être français. Donc il y a toujours de la volonté, c'est jamais automatique, pour, en tout cas, la première génération des nés en France de parents étrangers.
Mais j'en reviens alors.
Et donc, quelque part, je dirais qu'aujourd'hui, vous voyez, la loi de 98, elle a été faite, d'ailleurs j'avais fait moi-même un rapport au gouvernement là-dessus, et ça remet pas tout en cause. Vous voyez, il y a un débat gauche-droite sur est-ce que à la majorité, il faut que ce soit quasi automatique, ou est-ce qu'il faut une manifestation plus claire de la volonté. Bon, voilà le débat entre la gauche et la droite républicaine. C'est un débat légitime. Bon, ça n'est pas pareil que la suppression du droit du sol qui est proposé par le Rassemblement national, qui est quelque chose qui nous vient de l'Action française. de la fin du 19e siècle qui refusait la loi de 1889. C'est quelque part là, ce qu'il reste de totalement ancré de la tradition de l'extrême droite française dans le programme du Rassemblement national.
Alors j'en viens justement, Patrick Weil, à cette idée de supprimer aujourd'hui le droit du sol. Quels seraient les impacts concrets, manifestes, sur les vies françaises justement de la suppression de ce droit du sol? Qu'est-ce que ça impliquerait?
Alors d'abord, dès la promulgation de la loi, tous les enfants nés en France de famille française sont dans la situation d'enfants nés à l'étranger. C'est-à-dire que leur naissance sur le sol ne vaut plus rien. Voilà. Il faut donc qu'ils prouvent qu'ils sont français par une filiation. Donc ils doivent prouver qu'ils sont les enfants de X ou Y français, et il faut prouver que l'un de leurs parents est français. Donc il faut avoir deux... Vous voyez, il faut faire beaucoup plus de paperasse. Bon, et plus les générations passent, plus la paperasse sera importante et s'accumulera. Et donc il faudra probablement, ce que je vous disais tout à l'heure, créer des registres pour que les noms soient inscrits, qu'ils soient pas perdus, parce que quand vous avez besoin de papier, plus vous avez besoin de papier, plus il y a des risques de perte, de vol, de feu, enfin des choses qui les preuves disparaissent. Donc voilà, le double droit du sol, c'est un mécanisme simple et qui facilite la vie de la très grande majorité des familles françaises. Donc la première conséquence, c'est la déstabilisation de la preuve pour la majorité des familles françaises. Et la deuxième conséquence, c'est que les enfants d'étrangers nés en France, de parents étrangers, et puis les petits-enfants, restent étrangers, sauf s'ils sont naturalisés. Mais alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bon, d'abord, ils vont rester, ils seront des quasi-français, mais ils seront pas français par le droit, mais ils seront protégés par leur état d'origine. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la loi de 1889 impose la qualité de français à la troisième génération. C'est que quand vous êtes sous la protection d'un État étranger, ben cet État a le droit de vous demander des comptes sur le traitement de ce ressortissant. Et puis ces ressortissants, ils peuvent dire, nous on s'en fout, on en a marre d'être français. Par exemple, quand c'était Nice, en 1889, Nice et la Savoie viennent d'être attachés à la France, il y a plein d'Italiens. Si ces petits-enfants d'Italiens restent Italiens, ben un jour ils diront, nous on veut retourner à l'Italie. On en a marre d'être français. Donc vous avez des risques de ce qu'on appelle l'irrédentisme, c'est-à-dire de demande de rattachement d'un territoire, d'un morceau de territoire à un pays étranger. Le double droit du sol, du point de vue des conservateurs, c'est la possibilité d'imposer la souveraineté de l'État français sur sa population, sur la population du territoire français. Et ça, c'est ce que met en cause la suppression du droit du sol.
La voix du Premier ministre François Bayrou s'exprimait sur RMC le 7 février 2025.
Il faut un débat public approfondi et beaucoup plus large que ça. Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? Qu'est-ce que ça donne comme droit ? Qu'est-ce que ça impose comme devoir ? Qu'est-ce que ça procure comme avantage et en quoi ça vous engage à être membre d'une communauté nationale?
Que pensez Patrick Weil d'un débat large, pour reprendre le terme de François Bayrou, comme celui-ci, au sujet de cette question posée, qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation d'un débat comme celui-ci?
Alors, le président Sarkozy avait déjà lancé ce débat. Personnellement, j'avais d'ailleurs écrit un texte qui est sorti dans un petit livre qui s'appelle « Être français ». C'était basé sur un article du Monde que j'avais, une page sur les quatre piliers de la nationalité. J'avais le principe d'égalité, la mémoire positive de la Révolution, la langue et la culture et la laïcité. J'avais trouvé que je trouvais ça dans mes sources d'histoire. Je trouvais ces quatre piliers qui fait qu'on se sent français à travers ces quatre piliers et qu'on nous représente quand on est à l'étranger. C'est comme ça qu'on voit les Français. Mais je dirais que ce que vient de dire Monsieur Bayrou, j'ai écouté très précisément encore avec vous. D'abord, quels sont les droits et les devoirs des Français? Ça pourrait être enseigné à l'école ou par les fonctionnaires et les enseignants qui sont sous l'autorité du gouvernement. Moi, je constate, parce que vous avez noté le livre que j'ai écrit de la laïcité en France, comment l'absence de clarté dans la façon dont on explique, par exemple, la laïcité, comment la laïcité est mal comprise de la part, non seulement des enfants, mais des adultes et de Français qui sont Français depuis plusieurs générations. Donc, plutôt que de faire un grand débat sur le devoir et les droits, commençons par bien expliquer le droit qui existe, d'enseigner plus de droit à l'école. On est dans un pays où on n'enseigne quasiment pas le droit. Aux élèves qui sortent en terminale, ils ont très peu de notions de droit. Donc pourquoi ne pas mettre plus de droit dans les programmes scolaires ? Enfin, je dirais que ce que j'entends de ce que dit Monsieur Bayrou, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est français ? Ça me fait penser à Georges Clemenceau, le jour où, du 11 novembre 18, l'armistice est signé au petit matin, et il va devant la Chambre des députés, et puis au Sénat, et il fait un discours, vous pouvez le regarder sur Internet, il dure 5 minutes son discours. Et il termine en disant, quant aux vivants, je veux leur rappeler que la France, autrefois soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Tout de suite, alors qu'il y a tous ces centaines de milliers de morts dont il faut se souvenir, il pense au futur. Eh bien, il faut qu'on ait un débat sur le futur, de ce qui fait que nous sommes français avec un idéal, et quel est notre idéal. Et ça, les dirigeants politiques de tous les partis doivent nous aider à l'organiser. Alors plutôt que de se regarder le nombril sur notre identité, sur ce machin, il faut se dire, voilà, nous sommes français par différentes sources, vous voyez, depuis plusieurs générations ou depuis que quelques générations, mais nous sommes tous des citoyens français égaux devant la loi, construisant ensemble notre futur par un débat sur le futur, sur qu'est-ce que c'est que la République française, avec toute son histoire d'avoir toujours voulu être à la pointe des droits humains, à la pointe de la civilisation. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ?
Merci beaucoup Patrick Veil. Je rappelle que vous êtes historien et politologue, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'université de Liège. Merci de ce discours sur l'avenir et sur l'idéal. Merci d'être venu à Question du soir.